Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici donc à nouveau en préparation de réunions de prière, même si à notre grand regret, ce n'est qu'en distanciel et pas en présentiel, comme on dit maintenant. Mais notre Seigneur connaît notre désir de nous mettre d'accord pour lui présenter nos sujets de requête. Et nous savons qu'il agit toujours avec la même puissance et la même fidélité. Et peut-être même plus encore, puisque nos limites et notre impuissance mettent mieux en évidence la nécessité de son action et feront que les exaucements seront d'autant plus à sa gloire. Mercredi dernier, nous avons commencé à introduire un passionnant sujet, les différentes sortes de prières de la Bible illustrées par des exemples de la nature. Nous voulons donc continuer aujourd'hui en abordant, dans un premier grand point, cette sorte de prière intitulée « La requête ». La première sorte de prière, celle qu'on emploie le plus souvent, c'est effectivement la requête, c'est-à-dire une demande que nous faisons à Dieu et qui concerne en général nos propres besoins, comme il est indiqué dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, ou dans le psaume 37 au verset 5. Et dans la nature, ce sont les petits oiseaux blottis au fond de leur nid qui illustrent le mieux cette chose si belle et si simple. Vous avez certainement tous vu déjà un nid de rouge-gorge ou de moineaux, de merles ou de pinsons, rempli de 4 ou 5 oisillons affamés. Si vous l'avez découvert peu après l'éclosion des œufs, vous avez sûrement remarqué à quel point ces petits sont l'image même de la faiblesse. Leur corps est à ce moment-là tout nu ou recouvert seulement d'un duvet clairsemé. Leurs ailes sont des moignons informes, sans plumes. Leurs pattes sont fragiles. Si fragile que l'oiseau ne peut pas se tenir debout. Leurs yeux, enfin, sont encore fermés. Ainsi, ces petits êtres ne peuvent ni marcher, ni voler, ni voir, ni se réchauffer eux-mêmes, et ils dépendent entièrement de leurs parents. Mais dans cette faiblesse extrême, il y a un geste qu'ils peuvent faire dès leur naissance. C'est tendre leur petit cou vers le ciel, parce que c'est toujours par en haut que les parents arrivent au nid, et ouvrir tout grand leur bec. Et chose merveilleuse, cela suffit. Les parents, fidèles et assidus, vont et viennent du nid au verger. Ils cherchent de petites bouchées bien tendres, délicates, qui correspondent exactement à l'âge, à l'appétit et à l'espèce d'oisillon. Ils préparent avec soin d'avance chaque becquet, enlevant les ailes et les pattes des insectes, toutes les parties dures qui pourraient blesser les nouveau-nés. Ou bien ils avalent des graines dures et les ramollissent dans leur propre jabot, et les voilà de retour au nid, donnant sa part à chaque enfant, en commençant toujours par le plus affamé, celui qui ouvre le plus grand son bec, et ce manège dure toute la journée. Quelle image touchante et fidèle de notre Père Céleste, qui est de notre Sauveur qui sait de quoi nous avons besoin, comme il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 32, et qui est prêt à répondre à chaque instant à nos prières, même à nos moindres soupirs. Le Seigneur Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 6, et dans Jean chapitre 7, au verset 37. Et Jacob a dit à l'ange qu'il avait rencontré « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et un peu plus loin, il est marqué « Il le bénit là. » C'est dans Genèse 32, verset 24 à 29, que nous est raconté cet événement. Et plus nous serons affamés, et plus nous ouvrirons notre bouche pour prier, plus le Seigneur répondra et nous comblera de ses grâces, comme elle dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7. Mais, et remarquez comme ce détail est saisissant, malgré tout le zèle des parents et leur amour pour chacun de leurs petits, ils ne peuvent absolument rien faire pour l'oisillon qui n'ouvre pas son bec. Et celui-ci dépérit rapidement, sous les yeux même de ses parents désolés. L'apôtre Jacques n'a-t-il pas dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas » Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. Pourquoi y a-t-il tant de détresse, de souffrance, de dépérissement, de faiblesse parmi les chrétiens? C'est tout simplement parce qu'ils n'ouvrent pas la bouche ou pas assez, parce qu'ils oublient de prier et ils ne reçoivent rien de leur Père Céleste qui est pourtant là, au bord du nid si on peut dire, apportant tout ce dont ils ont besoin. L'Éternel attend pour vous faire grâce, est-il dit dans Ésaïe 30, verset 18, et dans Apocalypse 3, verset 20, Nous voyons le Seigneur qui dit, qui frappe à la porte, de notre cœur et qui attend que nous ouvrions. Pourquoi faire attendre le Seigneur et mourir de faim à côté de lui? Quel non-sens! Prenez l'habitude de prier, que vous soyez âgé, jeune ou même enfant, priez sans cesse, exposez tous vos besoins à Dieu, faites en un mot comme les oisillons dans leur nid. Il arrive parfois qu'un petit oiseau se croit déjà plus grand qu'il ne l'est. Il en a assez de ce nid étroit, il veut se tirer d'affaire tout seul, il essaye donc d'enjamber le bord du nid, d'employer ses ailes. Hélas, le voilà qui tombe dans le vide, et si sa chute n'entraîne pas une mort immédiate ou une grave blessure, il meurt bientôt de faim et de froid, ou bien il devient la proie d'un chat, d'un renard ou d'une hermine. Pourquoi, jeunes ou adultes, faites-vous si souvent comme ce petit oiseau? Pourquoi vous laissez-vous gagner par cet esprit d'indépendance qui fait de tels ravages dans le monde d'aujourd'hui? Pourquoi essayez-vous de faire tout seul, sans demander conseil à Dieu, à vos parents, à vos conducteurs spirituels? Que de chutes graves, que de fréquentations douteuses, que de mariages hâtifs, que de décisions prises à la légère, qui ont complètement compromis la vie et la vocation de tel jeune homme, de telle jeune fille, qui avait pourtant connu cette précieuse communion avec le Père Céleste, le nid bien chaud, qui avait même consacré sa vie à Dieu, mais qui un beau jour, imitant le petit oiseau, a voulu faire à sa tête. La Bible est extrêmement claire à ce sujet. Et l'image du petit oiseau, si faible dans son nid, si dépendant de ses parents, est rigoureusement exacte. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », est-il dit dans Jean chapitre 15, au verset 5. C'est Jésus-Christ qui a dit cela. L'apôtre Paul est devenu le plus utile des apôtres parce qu'il avait merveilleusement compris ce grand secret et qu'il pouvait s'écrier « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » C'est dans 2 Corinthiens 3, au verset 5. Et encore plus loin, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, verset 10. Non, il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas, comme dit le prophète Jérémie, au chapitre 10 et au verset 23. Et celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, comme il est marqué dans les Proverbes, au chapitre 28, au verset 26, et dans d'autres passages encore des Proverbes. Consulte-le dans toutes tes voies, est-il conseillé fortement par les Proverbes, au chapitre 3, verset 5 à 7. Prie, prie, encore, prie toujours. « Ouvre ta bouche et je la remplirai », est-il dit dans le psaume 81 au verset 11. « Demande-lui conseil et il te conduira », nous dit Ésaïe dans son chapitre 28 au verset 29. « Invoque son secours pour tes devoirs d'école, tes examens, les travaux du ménage, ton métier, tes besoins journaliers, tes tentations, le salut de ta famille et de tes amis. Pense aux petits oiseaux dans leur nid qui ne peuvent ni voir, ni marcher, ni voler. » Et ne te figure jamais que toi, tu es assez fort pour faire seul. Le Seigneur Jésus a dit, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, verset 3. Et le verbe « devenir » dans ce cas signifie même « être toujours plus ». Si vous n'êtes pas toujours plus comme les petits-enfants. Et puis, de temps à autre, il arrive que l'un des oisillons soit poussé hors du nid par ses frères. Quelle triste chose! Est-ce peut-être un camarade, un ami, un parent qui se moque de toi lorsque tu lis la Bible, lorsque tu te détournes du mal, un ami qui essaie de te faire sortir de cette retraite, de ce refuge où tu es entré, de te faire tomber du nid? Aie le courage de résister, de dire non et de rester fidèlement dans le chemin étroit. Ou bien, et ici combien la question est solennelle, est-ce peut-être une jeune fille, un jeune homme qui se dit chrétien? Est-ce toi-même qui, pour une bagatelle, sans réfléchir aux conséquences, a chicané un camarade, lui a fait de la peine, l'a scandalisé, et il est sorti du nid. Maintenant, il s'égare, il ne lit plus sa Bible et ne veut plus rien savoir de ces choses. Oh, demandons tous au Seigneur Jésus qu'il remplisse nos cœurs d'amour pour les autres, afin que nous ne repoussions jamais personne, mais que puissions plutôt attirer beaucoup et les conduire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voulons ouvrir maintenant la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16. Et nous voulons prier tout d'abord. Eh bien, Seigneur, en effet, c'est un grand privilège et une grande grâce pour nous d'être rassemblés autour de ta parole. Et nous te remercions parce que par cette parole encore, eh bien, tu nous encourages fermement, tu nous intimes même de prier, Seigneur, et de le faire avec foi, et de le faire avec constance, et de le faire avec persistance, Seigneur. Et merci parce que tu es ce Dieu qui veut encore agir et qui veut répondre à la foi. Te bénissons, notre Sauveur, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Amen. Voilà, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16, nous lisons la chose suivante. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je relis. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce, tel est notre passage d'aujourd'hui. Je dirais, ces mots se trouvent comme enchâssés dans ce précieux verset 16, ainsi qu'un diamant sur une monture d'or. La véritable prière, c'est l'approche de l'âme du trône de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement des mots qui sont prononcés, ce ne sont pas seulement des sentiments ou des désirs, ce ne sont pas des exercices mentaux, c'est bien plus profond que tout cela. C'est en quelque sorte un commerce, un échange avec le grand Dieu du ciel et de la terre. Bien sûr, je parle d'un commerce spirituel. Son objet et son but ne s'arrêtent pas à l'homme, mais montent jusqu'à Dieu lui-même. Et pour une telle prière, le travail du Saint-Esprit lui-même est absolument nécessaire. Si la prière était seulement le travail des lèvres, nous n'aurions besoin que du souffle de nos narines pour prier. Si elle était seulement une question de bon désir, même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent éprouver d'excellents désirs. Mais lorsqu'il s'agit de désirs spirituels, de communion spirituelle avec l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit lui-même doit être présent tout au long pour nous aider dans notre incapacité, pour donner la vie, pour donner la puissance à cette prière. Une autre chose qui est claire d'après notre texte, c'est que la présence du Seigneur Jésus est essentielle pour que la prière puisse être acceptée. Une prière ne peut rien obtenir sans le Fils de Dieu. Lui, le grand prêtre, le grand sacrificateur, doit aller au-delà du voile pour nous, ou plutôt, en lui, le voile doit être entièrement ôté. Car sans lui, nous sommes loin du Dieu vivant. L'homme qui, en dépit des enseignements du Dieu vivant, essaie de prier sans son Sauveur, insulte Dieu. Et celui qui imagine que ses propres désirs naturels venant devant Dieu sans être arrosés par le sang précieux de Christ sont un sacrifice acceptable, fait une grande erreur. Il n'a pas plus fait une offrande que Dieu peut accepter que s'il avait brisé la nuque d'un chien ou offert un sacrifice impur. Ce n'est que porté par le Saint-Esprit, présenté pour nous par Christ, que la prière devient puissante devant le Très-Haut et pas autrement. Et pour parler de notre texte ce soir, nous le ferons de cette façon. Déjà, nous verrons qu'il y a un trône. En premier, voici un trône. Ensuite, là est la grâce. Et enfin, en troisième, nous verrons la grâce sur le trône. Notre texte nous parle d'un trône. Dans la prière, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et voici l'image qui est la plus chère à nos cœurs. Mais nous n'avons pas à le considérer comme s'il était de la même nature que nous, parce que Jésus a ajouté à l'expression « notre Père », il a mis « qui est aux cieux ». Et pour nous rappeler qu'il est infiniment plus grand que nous-mêmes, il nous a ordonné de dire « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Ainsi, lorsque nous prions, nous ne venons pas seulement aux pieds de notre Père, mais aussi au trône du grand roi de l'univers. Le siège de la grâce est un trône, et nous ne devons pas l'oublier. Notre esprit de prière doit être en premier un esprit d'humble respect, par conséquent. Le sujet qui s'approche de son roi lui apporte hommage, lui apporte honneur. L'orgueilleux qui lui déplaît, le traître qui se rebelle contre son souverain, s'ils sont sages, éviteront de s'approcher près du trône. Il n'y a qu'un humble respect qui peut s'approcher du roi lui-même, quand il est revêtu de ses habits de gloire et de majesté. Dans notre cas, celui dont nous nous approchons est le plus grand de tous les monarques, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Les empereurs ne sont que des ombres de son pouvoir. Ils se disent rois de droit divin. Mais quel droit divin ont-ils? Le Seigneur seul a le droit divin. Et à lui seul appartient le règne. Ils ne sont que des rois de nom, qui peuvent être élevés ou abaissés par la volonté des hommes ou les décrets de Dieu. Mais c'est lui seul qui règne. Lui seul qui est le prince des rois de la terre. Mon cœur, prosterne-toi profondément dans sa présence. Incline-toi dans la poussière devant lui, car il a le pouvoir de créer aussi bien que le détruire, de régénérer et d'exaucer en toutes choses. Il est le plus puissant de tous les rois, infiniment plus puissant. Son trône est le plus grand de tous les mondes. Le ciel lui obéit joyeusement. L'enfer tremble à ses ordres et la terre, qu'elle le veuille ou non, est obligée de lui rendre hommage. Ô mon âme, lorsque tu t'approches de lui, sois donc bien assuré que tu enlèves tes souliers de tes pieds et que tu adores en humilité celui qui est aussi un feu dévorant. En plus de cela, il est le plus saint de tous les rois. Son trône est un grand trône blanc, sans tache, clair comme du cristal. Le ciel n'est pas pur à ses yeux. Il trouve de la folie même chez ses anges. Et toi, créature pécheresse, avec quelle humilité il te faut approcher de lui? Il faut de la familiarité, mais pas d'impolitesse. Il faut du courage, mais pas d'impertinence. Il est aux cieux, et toi sur la terre. Tu n'es qu'un ver dans la poussière, et il est l'Éternel. Mes frères et sœurs, je crains que nous ne prosternions pas de la bonne façon devant la majesté divine. Mais demandons ce soir au Saint-Esprit de nous mettre dans la bonne attitude pour nous approcher de sa grande majesté. Et puis, deuxième point de notre chapitre, voici un trône duquel nous pouvons nous approcher avec une dévotion joyeuse. Si je suis parmi ceux qui sont favorisés pour pouvoir se tenir debout devant lui, n'en serais-je pas joyeux? J'aurais pu être dans sa prison. Au lieu de cela, je suis devant son trône. J'aurais pu être éloigné de sa présence pour toujours. Au lieu de cela, on me permet de m'approcher de lui, même dans son palais glorieux, même dans sa chambre secrète. Oui, ma gratitude, mes remerciements s'élèveront en joie, car je suis honoré d'être fait le récipient de grandes bénédictions obtenues par la prière. Que nous puissions donc chacun mêler les louanges à nos prières et l'adorer de tout notre cœur. Et puis en troisième, c'est un trône duquel il faut nous approcher avec une entière soumission. Nous ne prions pas Dieu pour lui dire ce qu'il a à faire, ni pour lui dicter la bonne façon de procéder. Nous pouvons lui demander « Je voudrais ceci et cela ». Mais il faut toujours ajouter « Mais voyant que je suis ignorant, que je peux me tromper, que je peux avoir de mauvais motifs, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. » Et tout véritable enfant de Dieu demandera sérieusement, avec importunité, avec véhémence même, il plaidera encore. Mais il aura toujours au fond du cœur cette pensée indispensable « Que ta volonté soit faite, Seigneur. » Et si je demande quelque chose qui n'est pas en accord avec cette volonté, mon désir intérieur est que tu me le refuses. Et je prendrai comme une excellente réponse de ta part que tu ne me donnes pas ce qui n'est pas bon à tes yeux. Et puis en quatrième, si c'est un trône, on devrait l'approcher avec les plus grandes attentes et les plus grandes espérances. Nous ne venons pas demander l'aumône à Dieu quand il dispense ses faveurs aux pauvres. Nous ne méritons pas, c'est vrai, les miettes qui tombent de la table du maître. Mais lorsque nous prions, nous sommes debout dans le palais, sur le parquet étincelant de la salle de réception du grand roi. En prière, nous sommes debout là où les anges se prosternent en se voilant la face. Dans ce lieu même, les chérubins et les séraphins adorent. Devant ce même trône, nos prières arrivent. Et nous viendrions avec des requêtes petites, misérables, comme si notre Dieu ne donnait que des piécettes de 5 centimes. Non, ce n'est pas un roi qui donne des petites choses de rien, mais de grandes pièces d'or. Il ne disperse pas comme un pauvre des croûtons de pain, des miettes de viande, mais il prépare un festin de mets succulents, de viandes grasses et excellentes, de vins vieux clarifiés, comme il est dit dans Ésaïe. On raconte l'histoire de ce soldat d'Alexandre le Grand qui avait accompli des exploits au combat et à qui on avait dit de demander ce qu'il voulait. Et en fait, il demanda une somme tellement exorbitante que le trésorier royal refusa de payer. Et voici donc le cas, l'affaire, amené devant Alexandre. Et voici ce qu'Alexandre a dit. Il sait combien Alexandre est grand, et il a demandé comme un roi qu'on lui donne ce qu'il demande. C'est pourquoi ne demandons pas de petites choses. Mais souvenons-nous que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Alors demandons de grandes choses, car nous nous trouvons devant un grand trône. Et souvenons-nous toujours, en venant devant ce trône de grâce, qu'il fera infiniment plus que ce que nous demanderons ou pensons. Béni soit son nom. Amen. Le bon esprit, pour s'approcher du trône de la grâce, en cinquième, c'est aussi celui d'une confiance sans faille. Qui doutera du roi ? Qui ne fera pas confiance à sa parole ? Oui, honte à ceux qui restent incroyants devant le roi du ciel et de la terre. Pouvons-nous imaginer qu'il ne pourra pas ou ne voudra pas tenir sa promesse ? La normale des choses, c'est qu'un enfant fasse confiance à son père et qu'un sujet loyal fasse confiance à son roi. Une foi sans faille doit être prédominante devant le trône de la grâce. Que Dieu nous aide à nous appuyer puissamment sur sa parole, sur ses promesses, à nous attacher à elle et à les brandir avec confiance devant son trône. Et puis, en sixième encore, la prière amenée devant le trône de Dieu doit toujours être dans la plus grande sincérité. Celui qui utilise des paroles saintes sans y mettre son cœur ne peut pas rester dans le palais de la grâce. Il ne faut pas faire résonner des paroles aux oreilles des frères et sœurs pour leur plaire, mais réaliser toujours que nous parlons à Dieu lui-même. Et celui qui répète machinalement des prières auxquelles il est habitué, sans y mettre son cœur et sa pensée, ne saurait plaire à Dieu, car Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent l'adorer doivent le faire en esprit et en vérité. Enfin, en septième, quelle est la conclusion de ce chapitre ? C'est que la prière n'est pas quelque chose de léger, d'anodin, d'expédié. C'est un grand et merveilleux privilège. Du temps de l'ancien empire perse, seuls quelques privilégiés avaient la permission d'entrer à tout moment dans la présence du roi. Et c'était considéré comme le plus grand des privilèges. Vous et moi, enfants de Dieu, nous avons un permis, nous avons un passeport qui nous permet de venir à tout moment devant le trône de la grâce. Et nous sommes encouragés à le faire avec hardiesse. Oh, que nous puissions donc chacun entendre cette voix provenant de la gloire excellente et qui nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » C'est dans le psaume 100 et au verset 3. Et voici notre deuxième chapitre maintenant. C'est que notre texte de départ continue par un mot merveilleux qui est le mot « grâce ». Nous sommes appelés au trône de la grâce, pas à celui de la loi. Le Sinaï était autrefois le trône de la loi, lorsque Dieu est venu à Paran avec ses myriades, et qui désirait alors s'approcher de ce trône ? Ah, Israël n'osait pas. Des limites, des barrières ont été établies autour de la montagne. Et si même un animal essayait de les franchir, il devait être lapidé ou percé de flèches. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent obéir à la loi par leur propre force peuvent bien trembler et désespérer, comme Moïse qui, voyant ces flammes, disait « Mais je suis épouvanté et tout tremblant ». Nous ne parlons pas non plus ce soir du trône du dernier jugement, du trône de la dernière justice. Non, aujourd'hui, c'est un trône spécialement mis en place pour notre période, pour notre époque de la grâce. Un trône duquel descendent des paroles de grâce. Le sceptre qui y est étendu, c'est le sceptre d'or de la grâce. Les lois qui y sont proclamées ont des buts de grâce. Les dons qui sont répandus par ces marches d'or sont des dons de grâce. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, béni soit son nom. C'est le trône de la grâce dont nous nous approchons quand nous prions. Alors, pendant un moment, pour consoler et encourager ceux qui seraient faibles et vacillants, étendons-nous un peu sur cette grâce excellente. En premier donc, si par la prière je m'approche du trône de la grâce, alors les fautes de ma prière seront couvertes. lorsqu'on prie pour la première fois, et bien souvent après aussi, on a l'impression de ne pas vraiment prier. Les mots sont si imparfaits, ils correspondent si mal au soupir de notre âme, que lorsqu'on se relève de ses genoux, on a l'impression qu'il n'y a rien dans nos prières. Mais même les prières les plus hésitantes, les plus imparfaites, sont reçues devant Dieu. Nous ne sommes pas venus devant un trône de justice, mais devant un trône de grâce. Et si chacun d'entre nous présentait ce soir sa meilleure prière, et qu'il la voyait comme Dieu la voit, il aurait bien des raisons de se lamenter. Car il y a assez de péchés dans la meilleure de nos prières pour qu'elle soit chassée loin de Dieu. Que de manque, que d'imperfection à ce niveau. Mais notre Dieu ne fait pas comme les grands de cette terre qui, dès qu'une erreur se produit dans la façon dont on leur fait la demande, rejette celle-ci sans pitié. Le Seigneur Jésus prend soin de changer, d'améliorer chacune de ses prières avant de la présenter au Père pour nous, et il la rend parfaite de ses propres perfections, victorieuse de ses propres victoires. Quel encouragement pour tous ceux parmi nous qui se sentent faibles, impuissants et incapables dans la prière. Car ce n'est pas un trône de sévère critique, c'est un trône de grâce que celui auquel nous venons. Puis en deuxième, si c'est un trône de grâce, les fautes du demandeur lui-même n'empêcheront pas le succès de sa prière. Quels péchés sont sur nous, mes frères et sœurs. Nous sommes impurs au dehors comme au dedans. Combien nous sommes indignes de venir devant ce trône. Je ne pourrais pas dire « prier » au meilleur d'entre nous, à combien plus forte raison, plus pécheur, si ce n'était un trône de grâce. Mais maintenant, je peux le dire à tous et à moi-même et à tous les pécheurs, même s'ils pensent être les plus grands que les péchés jamais portés. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il répand sa grâce sur les plus bas tombés. Béni soit Dieu qui ne rejette pas un cœur brisé et contrit. Et puis en troisième, si c'est un trône de grâce, les désirs du demandeur seront compris. Si je ne peux pas trouver les mots justes pour exprimer mes désirs, Dieu les retrouvera, lui, en sondant nos cœurs. L'Écriture nous dit « L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voici un père aidant son petit enfant qui veut lui dire quelque chose. Il sait ce que le petit veut lui demander, mais il l'aide à trouver les syllabes et les mots pour le faire. Et puis le petit ne répète pas très bien, il oublie à moitié ce qu'il voulait dire, et le père suggère les mots qui manquent. Ainsi en est-il du Saint-Esprit qui nous enseigne comment nous devons prier, depuis le haut du trône de la grâce. « Apportez avec vous des paroles, dit-il. » C'est lui qui les complétera et les agencera au mieux pour qu'elles soient fructueuses et en bénédiction. Et puis en quatrième, si c'est un trône de grâce, alors les désirs de tous ceux qui y viennent seront comblés. Le roi d'un tel trône ne dira pas « Tu dois m'apporter des sacrifices ou des offrandes ». Ce n'est pas un trône pour recevoir des tributs ou des impôts. C'est un trône pour répandre dons et cadeaux. Venez donc, vous qui êtes les plus pauvres d'entre les pauvres. Venez, vous qui n'avez aucun mérite et aucune vertu. Venez, vous qui êtes devenus de misérables mendiants à cause du péché d'Adam et à cause du vôtre. Ce n'est pas un trône de majesté qui est entretenu par des taxes payées par ses sujets, mais un trône qui se glorifie lui-même en répandant comme une fontaine un fleuve de bénédictions. Alléluia. Oui, venez maintenant et acheter du vin et du lait divin sans argent, sans rien payer, car c'est un trône de grâce. Amen. Enfin, en troisième, notre troisième grand chapitre maintenant, considérant notre texte dans son ensemble, nous y voyons la grâce sur le trône. C'est un trône, et qui est assis dessus? C'est la grâce personnifiée. Et il est vrai que dans l'évangile de Christ, la grâce est le plus grand attribut de Dieu. Pourquoi cette grâce est-elle si exaltée? Eh bien, en premier, parce qu'elle a acquis ce trône par conquête. La grâce est venue sur la terre sous la forme du Christ, le bien-aimé, et elle s'est trouvée face au péché. Le combat était long, difficile. La grâce a paru piétinée par le péché. Mais finalement, c'est elle qui l'a saisie, qui l'a mise sur ses épaules, et bien qu'écrasée par le fardeau, elle l'a menée à la croix. Et l'a cloué là, et l'a tué là. On a été totalement victorieuse pour toujours, a glorieusement triomphé. Et c'est pourquoi aujourd'hui la grâce est sur le trône, parce qu'elle a vaincu tous ses ennemis. Et puis la grâce est aussi sur le trône, parce qu'elle s'y est établie par droit. Il n'y a pas d'injustice dans la grâce de Dieu. Dieu est aussi juste lorsqu'il pardonne un croyant que lorsqu'il jette un pécheur en enfer. Le sacrifice de Christ a permis à Dieu d'être juste et de rendre juste l'impie qui croit en lui et se tourne vers lui. Et Dieu serait même injuste s'il rejetait ceux qui se confient en Christ pour s'approcher de lui, car Christ a payé leur dette à la croix. C'est donc de plein droit, en pleine justice, que la grâce de Dieu est assise sur le trône. Enfin, en troisième, la grâce est sur le trône pour manifester sa puissance. Lorsque nous parlons du trône de la grâce, nous pensons à sa puissance sans limite. La grâce n'est pas sur le marchepied de Dieu. La grâce n'est pas juste à la cour du roi, mais elle est sur le trône. Elle règne aujourd'hui. Et ses bénédictions se répandent en abondance et en surabondance. Nous vivons dans les temps de la grâce, nous vivons l'époque de la grâce. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Si vous deviez faire connaissance de la grâce, comme un voyageur peut en rencontrer un autre puissant, faites-en connaissance et demandez son influence. Si vous pouviez la rencontrer comme un marchand ayant des trésors dans ses mains, recherchez son amitié qui vous enrichira au jour de la pauvreté. Mais lorsque la grâce est sur le trône, approchez-vous-en à l'instant. Elle ne peut être plus haute ni plus grande, car il est écrit « Dieu est amour », ce qui est un synonyme de la grâce. Venez et adorez la grâce infinie de Dieu. Ne doutez pas, ne tardez pas, n'hésitez pas. Bénis soient ceux qui se confient en elle et peuvent voir alors son soulagement, sa puissance et ses bénédictions. Amen. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons avoir cette merveilleuse promesse de notre texte. Et par conséquent, nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, y être secouru pleinement, être secouru dans tous nos besoins. Oh, quelle belle, magnifique promesse, Seigneur. Et merci, mon Dieu, de la façon dont tu nous encourages et dont tu fortifies notre foi ainsi. Béni sois-tu, Seigneur, et béni sois-tu pour l'encouragement et le puissant soutien dans la prière et la requête avec l'action de grâce. Amen. Et voilà, mes frères et sœurs, mes amis, pour les annonces, je vous rappelle que ceux qui veulent s'inscrire pour une distribution des traités de l'Église dans leur quartier et à leur rythme au cours des prochaines semaines peuvent encore le faire, plusieurs l'ont déjà fait, peuvent encore le faire cette semaine par téléphone, ce qui nous permettra de préparer la distribution, traités et plans pour la semaine prochaine. Et puis bien sûr, c'est aussi pour nous un sujet de prière parce que nous croyons que dans cette ville de Châlons et dans ces circonstances particulières du confinement, il y a des gens qui sont travaillés dans leur cœur et qui peuvent être touchés par le message et les possibilités qui sont dans ces traités. Je me permets de vous rappeler aussi les prédications de la semaine, le vendredi soir pour l'évangélisation et l'édification, le dimanche matin pour le culte, le mercredi soir pour la prière. Et puis aussi les WhatsApp, celui du mercredi soir, donc à 20h15, avec la possibilité de partager les sujets de prière et de remerciement, le dimanche à 9h45, avec les sujets de louange et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans l'esprit de prière, d'intercession, de requête et d'action de grâce. Amen.